G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
À toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio G, 101.5 FM. Il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers, Maine-et-Loire, Europe Direct partage l'expérience de Tour de l'Europe en moto de Joanne. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Alors je m'appelle Joanne, j'ai 30 ans, je suis chargée de projet dans un regroupement mutuel à Angers et j'ai fait un Tour d'Europe à moto sur 8 mois avec mon conjoint Jordan en 2024. On est parti de mai à décembre pour aller visiter 27 pays. On a fait 23 000 km et l'objectif, c'était d'un peu mieux comprendre l'Europe et d'aller à la rencontre des habitants.
Comment vous est venue cette idée de projet ?
Alors, l'idée du Tour d'Europe, ça m'est venue au Cambodge où j'ai fait mon stage de fin d'études de master. Donc, j'ai découvert la moto sur place et j'avais envie de rentrer en France en moto. Et en fait, c'était pas forcément la bonne période dans l'année pour la traversée des pays que ça demandait. Il fallait que je soutienne mon mémoire pour valider mon master. Donc, l'idée d'un voyage à moto est restée et je me suis dit que l'Europe, c'était une bonne idée parce que c'était un des continents que j'avais pas forcément beaucoup visité. Et l'idée s'est renforcée après avec le début de la guerre en Ukraine où je me suis dit qu'en fait c'était un pays qui était pas si loin de la France et que je connaissais pas plus que ça, où j'avais quelques idées mais assez vagues, ayant voyagé un peu à droite à gauche dans le monde mais assez loin. J'avais envie d'aller rencontrer un peu les pays voisins de la France. Je voulais également avoir un côté un peu plus d'apprentissage que de voyage. Je voulais découvrir un peu plus ce que c'était vraiment les conditions sur place ou sortir un peu des idées reçues. Et l'idée d'un tour, ça me permettait aussi de pouvoir aller dans des pays où j'aurais pas forcément été en tourisme. Et donc, ça m'obligeait à aller découvrir de nouveaux coins. Donc voilà, c'est un projet que j'ai eu en 2019. Et puis après, en fait, entre donc la guerre en Ukraine, le Covid, les différents aléas géopolitiques notamment, ça a pas mal modifié l'itinéraire. Et donc, ça m'a pris 5 ans, on va dire, de l'idée jusqu'à la conception.
Comment s'est passée la préparation de ce road trip sur le temps long, on imagine ?
En fait, au début, je voulais aller jusqu'en Ouzbékistan. Donc, il y avait vraiment ce côté faire une grande boucle, mais plutôt vers l'Europe de l'Est et le début de l'Asie centrale. Et puis, en fait, avec les problèmes de tension entre la France et la Turquie, la guerre en Ouzbékistan, les problèmes avec la Biélorussie, la guerre en Ukraine, le problème avec la Crimée... Enfin bref, il y a eu pas mal de pays où en fait les mois passaient et du coup je les rayais de la carte en me disant bon voilà, c'est pas possible, là non plus. Donc je suis plutôt partie sur un tour de l'Europe, plutôt sur l'Union Européenne, en rajoutant les pays nordiques que j'avais pas forcément mis au début. Et puis après, j'ai déjà fait plusieurs road trips, avec sac à dos où je vais découvrir un peu toute seule, où je me débrouille dans certains pays. Mon conjoint un peu moins. Donc, il y a aussi eu un temps d'apprentissage où on a essayé de faire des road trips ensemble, où on a fait du camping sauvage ou du bivouac, où on a essayé ce côté un peu plus logement chez l'habitant. Donc ça a fait partie d'une préparation pratico-pratique, on va dire.
Et est-ce qu'avant de partir, vous aviez des appréhensions particulières ?
Pour lui, c'était assez nouveau. J'avoue qu'il a passé son permis moto pour ce voyage. Donc, c'était la première. Enfin, il a appris à planter une tente, il a appris à dormir dehors plus sur moi. Le logement chez l'habitant, il connaissait pas du tout. Et puis après, je pense qu'on n'avait pas la même idée ou envie du voyage. L'enjeu que j'avais moi dans ce voyage-là, c'était sur le long terme, avec un côté durée assez longue où c'était là où résidait la principale difficulté, c'est de pouvoir tenir en itinérance sur plusieurs mois. Et là-dessus, on n'avait pas forcément le même niveau de résistance, on va dire. Je pense que mon conjoint aurait aimé que ce soit plus court. Et puis, je pense que j'étais un peu plus à l'aise sur ce côté itinérance, rencontre de l'autre et sortie de sa zone de confort.
Et justement, on continue sur les côtés peut-être un petit peu négatifs. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pendant ce tour d'Europe ?
Alors, le planning était assez chargé, dans le sens où on faisait environ un pays par semaine, avec ça pouvait aller jusqu'à un mois pour les pays assez longs. Et en fait, ça c'était dû aux conditions climatiques, ou si on voulait faire voir l'ensemble des pays, ou en tout cas à atteindre la boucle jusqu'en entier. En fait, on avait aussi la contrainte météo vu qu'on était à moto, donc l'idée c'était de rentrer avant l'hiver. Donc même si des fois on restait un peu plus longtemps, il fallait qu'on raccourtisse après, ou en tout cas on pouvait pas se permettre de rester plusieurs semaines dans un même endroit. Ensuite, on est quand même, on est parti à deux pendant 8 mois. On était 24 heures sur 24 ensemble. Donc en termes de relations, faut savoir aussi gérer, parce que effectivement le temps seul a été quand même assez court.
L'objectif de ce road trip, c'était de partir à la découverte des habitants, des citoyens européens. Comment vous avez fait pour rentrer en contact avec ces habitants ?
On a utilisé principalement Servas, S-E-R-V-A-S, et c'est un réseau international qui offre pour la paix. Ils proposent différentes choses, majoritairement du séjour chez l'habitant, mais ils font aussi d'autres choses pour œuvrer pour la paix, telles que des camps de jeunes, des échanges linguistiques, des rencontres au niveau local ou international, etc. Donc en fait, ils ont, une fois qu'on est adhérent à l'association, il y a un site web, une sorte de Google Maps où il y a un point pour où habite chaque personne. Donc là, on a un peu le descriptif de ce qu'il fait, quels sont ses hobbies, l'âge, comment il peut héberger la personne, etc. Et donc ensuite, on leur envoie un message ou on les appelle pour savoir s'ils sont disponibles sur les dates sur lesquelles nous, on passe près de chez eux. Donc on s'est fait héberger comme ça par 34 personnes. Ça a été assez chouette.
Et est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont surpris donc au cours de ces rencontres avec les citoyens européens ?
En fait, j'ai été assez surprise de voir à quel point on était similaires. Avant de faire mon tour d'Europe à moto, j'étais 2 ans au Canada, à Montréal, dans la partie francophone. Et en fait, je me suis sentie plus proche de quelqu'un de Slovaquie que de quelqu'un de Montréal. Je trouve qu'il y a vraiment une culture européenne et une identité européenne que je n'avais pas forcément imaginée. Et en fait, l'Europe n'est pas si grand que ça en termes de kilomètres, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays et beaucoup de langues. Mais au niveau paysage, si on prend par exemple l'Europe, on va dire centrale, c'est quand même à peu près similaire à ce qu'on peut retrouver en Pays de la Loire. Je sais que par exemple, les pays baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie, c'était vraiment, enfin la campagne est vraiment similaire au Pays de la Loire. Ça rend aussi assez humble parce qu'on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de choses en France que les gens n'ont pas forcément à l'étranger. Et en fait, la plupart des gens nous ont dit on aime beaucoup la France et on admire vraiment votre côté protestataire pour justement manifester et pouvoir s'exprimer quand il y en a besoin. Mais vous le faites un peu trop. Et puis il y avait un peu ce côté de réaliser un peu de tout ce que vous avez avant de protester et choisissez un peu vos combats.
Quelle leçon as-tu apprise grâce à cette expérience ?
En fait, ça m'a montré qu'on n'était pas si différents et que vraiment ce côté culture européenne est assez présente. Et c'est vrai que ça fait un peu plus partie de moi par rapport à avant. Je trouve que c'est quand même une grande richesse sur laquelle c'est important de pouvoir se battre ou en tout cas œuvrer pour, parce que l'extrême droite monte de plus en plus dans les pays. Il y a vraiment cette ambiance en Europe de se dire est-ce qu'on ne ferait pas mieux tout seul ? Est-ce qu'avec toutes les mesures protectionnistes, etc. Et je trouve qu'on oublie un peu le fond qui est... en fait, ensemble, on est quand même un peu plus fort, que ce soit... économiquement parlant, politiquement parlant, etc. Et puis en fait, on a tous envie des mêmes choses, plus ou moins. J'ai réussi à faire ce tour d'Europe jusqu'au bout. Je m'étais dit 8 mois et je les ai faits. Donc il y a un peu ce truc de, une fois que j'ai passé 3 mois à dormir dehors et à débrouiller sur autant de pays, en fait, qu'est-ce qu'après un entretien d'embauche ou qu'est-ce que tenir tête à mon boss pour avoir une augmentation ou... Enfin, je trouve que ça, ça conforte un peu dans l'estime que je peux avoir de moi-même et que personne ne pourra m'enlever. Et c'est vrai que ça apprend quand même beaucoup de choses sur soi. Et voilà.
Est-ce que lors de ce road trip, tu as eu des coups de cœur particuliers pour des pays ou des villes ?
Alors, j'ai eu un coup de cœur pour la Norvège. Je crois que c'est le pays que j'ai préféré. Parce qu'avec les fjords, il y a vraiment ce côté mer et montagne ensemble. Mais j'avais quelques a priori sur certains pays. Et en fait, j'ai toujours été agréablement surprise. Je ne dirais pas qu'il y a un pays où je me suis dit « c'était sympa, mais j'y retournerai pas ». Je trouve qu'ils ont tous quelque chose à apporter en fonction de ce qu'on recherche, que ce soit en termes de population ou de paysage.
Tu as filmé ton voyage pour en faire un documentaire, même si tu as répondu partiellement, mais est-ce que l'idée de départ, c'était d'abord un projet de voyage ou d'abord un projet de documentaire ?
Il y avait vraiment un projet de voyage, mais je ne voulais pas que ce soit du tourisme. C'était vraiment important pour moi de pouvoir transmettre quelque chose par rapport à ça, parce que je trouve que je suis pas forcément la seule à me poser ce genre de question de qu'est-ce que l'Europe à l'heure actuelle, et je suis pas sûre qu'il y ait autant de personnes qui prendraient le temps ou qui auraient forcément l'argent pour faire un tour de différents pays, et je trouvais ça aussi inspirant, que ce soit pour le grand public comme pour les nouvelles générations. Donc j'avais vraiment cette envie de pouvoir en faire quelque chose. Et je trouvais que la vidéo, c'était ce qui parlait le mieux aux gens. Mais donc, j'ai quand même préparé un documentaire en amont où j'ai posé les mêmes questions d'interview durant les différents pays qu'on a visités pour pouvoir justement faire un peu un mélange des réponses pour une même question.
Maintenant que le documentaire est monté, prêt à diffuser, de quelle manière tu souhaites faire vivre ce projet ?
Alors, il est en ligne. Si jamais il y en a qui veulent le voir. Et ensuite, là, j'organise des ciné-débats dans différentes villes en France pour essayer de le proposer au grand public. Donc, pour l'instant, je fais ça avec les Maisons de l'Europe des Pays de la Loire ainsi que l'association Servas. Et puis, une fois que j'en aurai fait quelques-uns, j'essaierai de développer à d'autres villes. Et c'est juste que, vu que j'habite pas dans les endroits où je vais le faire, j'ai besoin d'avoir une association ou en tout cas une structure qui aurait envie de le proposer et qui se chargerait un peu de la partie communication. Donc on organise un ciné-débat le mardi 10 février à 19h30 au tiers-lieu de Lévière, c'est pas loin des pompiers au niveau du centre-ville d'Angers. Il y a un bar associatif sur place qui est ouvert à partir de 18h, c'est prix libre au chapeau. Donc, n'hésitez pas à venir. Le documentaire est accessible grand public à partir de 7 ans environ. Et donc, c'est 50 minutes de film et ensuite, on est là pour répondre aux questions si jamais il y a besoin.
Et est-ce que, pour finir, tu aurais un message ou des conseils pour les auditeurs qui hésiteraient à partir en road trip, donc à moto, en train, en voiture ou à vélo d'ailleurs, en Europe ?
En fait, c'est assez facilement réalisable. Le bivouac est quand même autorisé dans un très grand nombre d'endroits. Le logement chez l'habitant, il y en a plein en Europe. Ça reste quand même financièrement assez accessible si les gens ont envie de partir sans un gros budget. Donc, moi, je conseille à tout le monde de pouvoir faire ça, ne serait-ce que le temps d'un week-end ou sur une semaine, juste pour tester un peu, pour voir ce que ça donne. Je trouve que ça... C'est vraiment très enrichissant, notamment au niveau personnel. Et vraiment, il y a assez peu de contraintes par rapport à ça. En 8 mois, on n'a pas eu d'accident, on ne s'est pas fait embêter plus que ça par des gens. Et je pars un peu du principe que, de base, une personne est quand même bienveillante. Donc, vous trouverez quand même plus de personnes sur votre chemin qui ont envie de vous aider et qui trouvent votre périple assez chouette, plutôt que l'inverse.
Merci beaucoup, Johan, d'avoir répondu à nos questions. On espère que ce témoignage donnera envie aux auditeurs de voyager en Europe et de rencontrer d'autres habitants européens. Donc, on vous donne rendez-vous le mardi 10 février prochain à 19h30 au tiers-lieu de Lesvières, donc à Angers. Les infos et la réservation sont possibles sur le site du tiers-lieu et aussi sur nos réseaux sociaux.